Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est une journaliste américaine de passage à Paris. Elle est spécialiste de la question de l'égalité homme-femme au New York Times dans l'Amérique post-MeToo.
Bonjour, good morning Jessica Bennett.
Good morning.
Vous avez un métier extrêmement rare. Vous êtes la seule journaliste au monde spécialiste de l'inégalité homme-femme au New York Times. Concrètement, qu'est-ce que c'est votre travail ?
You know, a lot of people don't understand
Vous savez
what my
qu'il y a beaucoup
is.
De gens qui ne comprennent pas ce que
There
je fais comme métier.
Many of this type of role.
Il y a effectivement peu de gens qui font ce métier. Et ce que j'entends, si vous voulez, par ce que je fais, c'est comment est-ce qu'on peut, si vous voulez, impliquer davantage les femmes et comment est-ce qu'on peut couvrir mieux tout ce qui concerne à la fois les sujets hommes et femmes chez nous. J'ai géré cette question de l'égalité homme-femme dans mes différentes fonctions depuis que je travaille comme journaliste, depuis 2013. Mais il a fallu attendre 2016 pour que ce poste soit effectivement créé. Ce n'était pas une réaction à Trump, ça a été créé avant MeToo, mais il se trouve qu'il y a eu cette espèce de galvanisation de différents éléments au même moment. Et j'ai commencé à travailler la semaine où l'affaire Harvey Weinstein est sortie. Donc effectivement, ça a beaucoup occupé mon activité depuis lors.
Et avec le recul, donc depuis l'automne 2017, en quoi ça change le contenu du New York Times ? Est-ce que ça change par exemple le contenu des articles de vos collègues ?
Honnêtement, je pense que c'est MeToo qui a tout changé. Quand je travaille, je réfléchis justement comment on peut mieux couvrir toutes les questions qui sont relatives à la condition féminine. Alors évidemment, ça concerne différents articles, c'est une couverture horizontale, on n'a pas d'article en tant que tel sur la question du genre, mais la couverture de la femme, elle doit être présente dans toutes les sections de notre publication. Sans que ça soit visible, j'allais dire, quasiment. Mais il faut dire quand même que MeToo a beaucoup aidé à cela. J'aurais pas pu faire autant, d'ailleurs, de par la fonction que j'occupais. Aujourd'hui, après MeToo, on couvre beaucoup mieux toutes ces questions de harcèlement dont sont victimes les femmes, d'inégalité dans le monde entier. Et je pense que les choses ont vraiment changé après cela.
Et du point de vue de la hiérarchie, est-ce que MeToo a changé aussi la hiérarchie au New York Times ou bien est-ce que le journal est toujours dirigé par des hommes blancs quinquagénaires ?
Effectivement, il y a de véritables changements au New York Times. Bien souvent, pour autant, les gens ne comprennent pas ce que je fais. Il ne s'agit pas pour moi de recruter, de poser telle ou telle personne à tel poste. Vraiment, moi, mon travail, c'est réfléchir à notre ligne éditoriale. Comment est-ce que nous couvrons les événements ? Comment est-ce qu'on pourrait le faire mieux ? Et sans aucun doute, la représentation des femmes dans la salle de rédaction, elle contribue à ce regard que porte notre journal sur l'actualité de manière générale. Mais moi, vraiment, ma fonction, ce n'est pas choisir les personnes, c'est réfléchir à ce prisme qui doit être celui de la présentation de l'information.
Donc la cause féministe progresse aux États-Unis dans les faits.
Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais sans aucun doute, on a là ce véritable basculement culturel. C'est le plus important que j'ai vu depuis que je travaille et vis cette question du harcèlement sexuel. Ensuite, il y a des répercussions qui vont même au-delà du harcèlement sexuel en tant que tel. Par exemple, la manière dont la femme lutte actuellement contre cette espèce de paternalisme ou ces organisations patriarcales qui sont présentes un peu partout, eh bien, on voit donc qu'il y a cette répercussion qui va bien au-delà du simple harcèlement sexuel.
Mais ce basculement des esprits, est-ce qu'il concerne juste les intellectuels comme vous à New York ou les étudiants sur les campus? Ou est-ce que ça se diffuse plus largement dans la société? Vous vivez quand même dans le pays des électeurs de Trump.
Non, je pense que c'est plus large, beaucoup plus large. Alors, bien sûr, les intellectuels sont concernés, et puis nous sommes dans un milieu de médias, mais la manière de parler a changé, le langage, le vocabulaire a changé. Vous savez, il y a quelques années, le harcèlement, personne ne savait le définir, MeToo, balance ton porc, ce sont aujourd'hui des expressions que l'on connaît dans le monde entier. tout le monde le connaît. Donc c'est le témoignage, certes, d'une amélioration, puisque l'on parle désormais de ces sujets plus que ça l'a été le cas précédemment. Et je pense vraiment que le fait de parler, c'est la première étape vers une vraie amélioration.
127 femmes au Congrès américain, des femmes démocrates dans la course à la présidence. Est-ce que vous pensez que c'est possible?
I hope so.
Ben, j'espère.
This is a historic moment. We have never seen this many women.
Un moment historique. On n'a jamais eu autant de femmes candidates à la présidence. Et c'est le résultat direct, en un sens, de l'élection de Donald Trump. Et je pense que MeToo a joué son rôle, c'est-à-dire que les femmes aujourd'hui se sont unies, il y a eu les marches des femmes, elles ont osé parler, elles se sont organisées, et elles se sont organisées pas simplement pour descendre dans la rue, mais elles ont commencé à s'organiser aussi au plan politique. Et ce sont des femmes qui se présentent pour la première fois, pour la plupart d'entre elles. Elles ne connaissent pas forcément le métier politique. Elles sont très jeunes pour certaines d'entre elles. La sénatrice, par exemple, New York est très très jeune. On a aussi une femme de couleur, les premières femmes indigènes, toutes ces premières qui arrivent. Et je pense qu'il va y avoir un vrai basculement politique et historique.
Jessica Bennett, pour qu'on fasse tous ce basculement des esprits, femmes et hommes ce matin, expliquez-nous quel est le sexisme insidieux dont vous parlez.
La manière dont je vois ce sexisme insidieux ou subtil, eh bien, je vous dirais, c'est en fait ce sexisme que vous avez du mal à montrer du doigt ou à toucher du doigt. C'est différent. C'est un sexisme qui va être présent dans la manière dont on perçoit, par exemple, la femme lorsqu'elle occupe un poste de direction. On va dire, c'est une femme qui est trop agressive ou elle est trop dure. Ou alors quand une femme s'exprime dans une réunion aussi, on remarque bien souvent, elle a deux fois plus de chances d'être interrompue qu'un homme qui va prendre la parole. Souvent, lorsqu'on a des idées en tant que femme, elles vont être attribuées à un homme. Alors ce sont des toutes petites choses, mais au final, elles se cumulent et à la fin, c'est quelque chose qui fait du mal, se cumule. Donc moi, ce que je recherche, c'est cette possibilité de pouvoir lutter et de démanteler ces petites formes insidieuses aussi de sexisme.
Et quel est le meilleur outil de lutte pour toutes celles et même ceux qui sont confrontés à ces situations ?
Je pense que prendre la parole, s'exprimer ou avoir quelqu'un qui est votre porte-parole, c'est important. Nous savons, bien sûr, que les hommes occupent encore la plupart des postes clés. Cela veut dire qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Ça peut être un homme qui va pouvoir prendre la parole en votre nom et dire, bah, ça, c'était l'idée de Jessica, je vous le confirme. Ça, c'est une possibilité.
Et vous avez une formule magique pour convaincre les hommes les plus rétifs?
Si j'avais la solution magique, je serais ravie. On peut regarder les choses de différentes façons. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'appuyer vraiment sur les données, sur des cas concrets, et qui montrent que les entreprises travaillent mieux lorsqu'il y a autant de femmes que d'hommes qui obtiennent des fonctions de pouvoir. Voilà.
C'est ce que vous leur dites.
C'est ce que je leur dis, oui.
Et ça marche?
Je pense que ça marche de plus en plus. Les gens commencent à comprendre que c'est dans l'avantage de tous au plan financier, au plan de la gestion des entreprises, que d'avoir une bonne répartition entre femmes et hommes.
Jessica Bennett, journaliste spécialiste au New York Times de la question des inégalités hommes-femmes, de passage à Paris pour la journée des droits des femmes, le 8 mars. Merci d'avoir été sur France Inter. Thank you.
Merci.
Et merci à vous Alexandra Ben Saïd, on se retrouve à 8h20. Merci également à Hélène Joquet-Lejean pour la traduction de cet entretien.